Qu'est-ce qui fascine dans un tableau? Qu'est-ce qui fait qu'une œuvre, plutôt qu'une autre, vous arrête? Et à quoi tient la silencieuse puissance de la peinture? Daniel Arras, érudit généreux, spécialiste de l'histoire de l'art de la Renaissance italienne, tentait de répondre à ces questions avec enthousiasme dans une série de 25 émissions de France Culture. C'était en 2003, quelques mois avant sa mort, à 59 ans. Il vous invite à une traversée de l'histoire de la peinture, de l'invention de la perspective jusqu'à la disparition de la figure. Et pour commencer, dans ces trois premiers épisodes, il sera question du tableau préféré, de la Joconde et de la peinture comme pensée non verbale.
Écoutez, on va parler, enfin je vais parler, pendant toutes ces séances, ces petites séances, de peinture. De peinture, il y aura quelques excursus sur l'architecture, sur certaines sculptures, mais essentiellement sur la peinture, et la peinture du XIVe siècle jusqu'à la fin du XIXe siècle. C'est la période qui m'intéresse et sur laquelle je travaille. Elle est déjà assez vaste, je vais me dire un spécialiste de cette période, il n'y a pas de spécialiste de cette période. Et dans cette période, il y a des moments ou des œuvres qui retiennent plus mon attention, non pas parce qu'elles sont nécessairement consacrées, mais parce que pour moi, elles ont une densité de signification particulière. Alors, comment est venue cette espèce de découpe qui fait que, dans le fond, mon intérêt historique, j'entends, non pas forcément artistique ou personnel, mon intérêt historique s'arrête avant, enfin le terminus, le premier terme, c'est on va dire 1250, pour remonter un peu dans le XIIIe siècle, et puis ça s'arrête entre 1885 et 1920. Voilà, bon. Alors comment est venu ce choix? Parce qu'au départ, en fait, j'aimais également beaucoup cette peinture romane ou des œuvres de Bonnard de 1940. Donc comment s'est fait cette et pourquoi va-t-on parler de ça pendant les jours qui viennent? Eh bien, en fait, je crois que c'est par d'abord la cohérence d'un problème à long terme historique ou historique à long terme. C'est-à-dire ce qui caractérise la peinture européenne du début du XIVe siècle à la fin du XIXe siècle, c'est que cette peinture se fait sous le principe de l'imitation de la nature. Et même certains peintres, ou certains moments, pensent que les images qu'ils représentent, c'est l'ère de la représentation, eh bien, les images sont vraies. Il y a une vérité de la représentation. C'est en tout cas ce que prétend rechercher et exiger du peintre le Florentin Léon Battista Alberti dans son texte de 1435 de la peinture, où il fonde en fait la théorie de la peinture, je ne dirais pas moderne, mais classique. Et j'entends par peinture classique la peinture d'imitation. Depuis le texte d'Alberti, autour d'Alberti, on va dire, pratiquement jusqu'à l'impressionnisme. Parce que l'impressionnisme continue à faire de la perspective. Il y a des allées de peupliers de Monet qui sont de la parfaite perspective. Donc la mise en forme du monde, la structure d'organisation de la représentation ne change pas fondamentalement depuis, on va dire, Masaccio, début du XVe siècle à Florence, jusqu'à Monet. Il y a toujours de la perspective et dans le fond, l'appareil photographique va prendre le relais dans la mesure où l'appareil photographique ne fait que singer le principe de la perspective. C'est-à-dire, il y a un œil unique et toutes les lignes convergent vers le point qui est la projection de l'œil sur la surface de représentation. Donc, c'est cette cohérence-là qui délimite mon champ de recherche et d'études, parce que, évidemment, à l'intérieur de cette très longue période, je peux dire à la fois la forme de base, la représentation n'a pas changé, mais en même temps, le nombre de styles est considérable, parce que on aura la première Renaissance, la Renaissance classique, le maniérisme, le baroque et le classique, le rococo, le néoclassicisme, le romantisme, le sublime, etc., etc. Donc, dans un seul type de forme de base, jadis on appelait ça le schème d'organisation. Dans un seul schème d'organisation, eh bien, on a toute une série de configurations du schème qui changent et qui sont les styles. Et là, donc, il y a une possibilité dans l'histoire à long terme d'étudier les transformations. Donc, ce qui m'intéresse, c'est comment un système se crée. Et ça, on va dire, c'est le 14, fin 13e, 14e et début du 15e siècle, comment un système s'instaure, comment ensuite il ne cesse de se transformer jusqu'au moment où il continue à fonctionner, parce que la perspective continuera à fonctionner encore au XXe siècle, en peinture pour certains peintres, mais il n'est plus le système dominant. Il est concurrencé et il est même mis à bas par des systèmes radicalement différents, tout simplement l'abstraction. Quand carré blanc sur fond blanc, bah c'est terminé, il n'y a plus de perspective. Bon. Donc ce qui m'a intéressé, et ce qui continue de m'intéresser, même de me passionner, c'est la complexité des problèmes qui se posent, de transformation, de réponse, de solution, de recherche, à l'intérieur de cette grande unité historique. Alors, je sais que l'unité peut paraître beaucoup trop grande. Alors, ça paraît très restreint, parce que s'intéresser qu'à la peinture, quand même, c'est bizarre, parce que la peinture peut être séparée de l'architecture, de la sculpture, etc. Donc, on va dire, mais enfin, en ne s'intéressant qu'à la peinture, on ne fait pas l'histoire de l'art, on fait l'histoire de la peinture. Oh ben d'accord, je fais l'histoire de la peinture, je fais pas l'histoire de l'art. Mais je sais pas très bien ce que c'est que l'histoire de l'art, de toute façon. Mais disons, je fais l'histoire, ben je fais une histoire de la peinture, histoire en plus de certaines peintures. Parce que je ne m'intéresse qu'aux tableaux qui m'intéressent. Hein. Il y a des périodes qui m'intéressent, moi je n'y peux rien. Et je laisse à d'autres, excellents, le soin de dire le bien qu'ils pensent, ou tout l'intérêt qu'a cette période ou qu'ont ce type d'œuvre. Mais ce qui m'intéresse donc dans cette longue période, c'est les transformations, et c'est en particulier les moments où, à l'intérieur du système général, un système se crée, hein, apparaît, se noue, et puis le moment où il va se défaire, être remplacé par un autre. Ça, ce sont des périodes de transformation tout à fait passionnantes, parce que je crois qu'on y observe, en histoire de l'art, en histoire de la peinture, des processus équivalents à ceux qu'on observe en histoire des sciences. Et là, je trouve ça extrêmement intéressant de pouvoir utiliser certains modèles d'interprétation élaborés par des historiens des sciences pour voir comment ils permettent de mettre au clair certaines transformations artistiques qui, sans ça, ne sont pas vraiment compréhensibles. Là, je pense, bien sûr, au livre de Thomas Kuhn sur la structure des révolutions scientifiques, et je dirais, il serait très intéressant de regarder comment, par exemple, on passe à la fin du XVIe siècle du maniérisme, qui est le style européen du XVIe siècle proprement dit, comment on passe, en fait, en une vingtaine, trentaine d'années, on passe à la fois au baroque et au classicisme. Comment ce style européen, hein, cette langue commune de toute l'Europe, le maniérisme, peut donner naissance, à travers une révolution artistique, hein, mais qui dure une vingtaine d'années, à la fois au style classique des Carrache, hein, d'où viendra Poussin, etc., etc., et au baroque ou au Caravage. Bon, ça, ce sont des moments qui sont à la fois très émouvants, parce que dès lors qu'on ne suppose pas que le Caravage existe en 1580, il n'existe pas encore, il va commencer à exister, mais dès lors qu'on ne sait pas ce qui va se passer, et qu'on feint de ne pas savoir ce qui va se passer, eh bien, l'actualité et l'intensité des propositions de ce qui se passe dans ces années 1560, 1570, 1580, vaut bien l'intensité de ce qui se passe actuellement dans l'art contemporain. Parce que ça nous paraît tout tranquille, hein, un long fleuve tranquille, parce que on a trois siècles de distance, mais si on essaye, si on fait l'effort, je dirais épistémologique, hein, d'ignorer, de faire semblant d'ignorer qu'il va y avoir Galilée, qu'il va y avoir le Caravage, qu'il va y avoir bientôt l'Académie royale de peinture et de sculpture, etc., on a des moments qui sont picturalement et intellectuellement absolument passionnants. Alors toute cette histoire, qui m'intéresse, hein, cette histoire de la peinture, donc du XIVe à la fin du XIXe siècle, comment dire, elle commence par un duo étonnant, qui est celui de Duccio, le grand siennois, hein, du tout à fait début du XIVe siècle, et du grand florentin du moment, Giotto, évidemment, qui a été beaucoup plus retenu par l'histoire de l'art, puisque l'histoire de l'art a été faite d'abord par les florentins, donc évidemment Giotto a été privilégié par rapport à Duccio. Non sans raison, car Giotto rompt, hein, c'est-à-dire il y a une rupture chez Giotto, mais en même temps que Giotto peint, au début de Giotto, Duccio continue à peindre. Duccio peint, on a des tableaux de lui de la fin du XIIIe siècle jusqu'aux années 1310, etc. Et là où je dis c'est un couple qui m'intéresse, parce que autant Giotto propose des nouveautés sur lesquelles il faudra revenir, Giotto propose des nouveautés, autant Duccio porte à son comble un système d'une richesse extrême et qui est destinée à disparaître. Et ce système, c'est un système fondé non pas sur la perspective telle qu'elle sera inventée un siècle plus tard, mais sur une notion du lieu et des figures qui n'a rien à voir avec l'espace organisé de la perspective géométrique, mais avec les espaces de la mémoire. Et ça, c'est un monde dans lequel j'ai été amené aussi un peu à entrer, un problème des arts de la mémoire, des techniques de mémoire à la fin du Moyen-Âge. Mais l'invention de la perspective, elle, c'est elle qui va, emporter le mouvement et l'art vers sa phase que j'appelle classique. L'invention de la perspective, en fait, ça prend une centaine d'années. Mais le mot invention, j'y tiens beaucoup. D'abord, pourquoi invention ? J'y tiens beaucoup parce que la perspective n'est pas une découverte. Hein ? On découvre l'Amérique. C'est vrai, parce qu'elle existait et on la découvre. Sans savoir ce qu'on découvre, mais on découvre l'Amérique. La perspective, elle n'existe pas avant qu'on ne l'invente. Quand on lit ou qu'on entend dire « oui, alors les Italiens découvrent la perspective parce qu'elle avait toujours existé ». Non, c'est une invention et c'est un système de représentation parfaitement arbitraire et qui est dont il faut essayer de comprendre les raisons. Pourquoi invente-t-on à un certain moment, et encore une fois, ça prend près d'un siècle, hein, donc c'est pas un individu qui a inventé la perspective, hein, c'est toute une société qui invente la perspective très progressivement. Pourquoi l'invente-t-on ? Qu'est-ce que ça signifie ? Que cherche-t-on ? Hein, quelle est la fonction de ce système de représentation tellement arbitraire ? Puisque, quand même, une perspective au sens classique du terme, que ce soit Alberti dans son De Pictura, Brunelleschi dans ses petits panneaux qui représentaient le baptistère de Florence ou la place de la Seigneurie, ou Masaccio, par exemple, dans la Trinité de Santa Maria Novella, ça suppose un spectateur immobile, fixer une certaine distance de ce qu'il regarde et avec un seul œil. Donc ça n'a rien à voir avec la façon dont nous percevons. Parce que nous percevons, nos yeux n'arrêtent pas de bouger. Nos yeux ne sont jamais fixes. Hein. Même quand on fixe quelque chose, je crois que la science moderne a montré que l'œil n'arrêtait pas de scanner autour du point qu'on fixait, mais jamais n'était absolument immobile. Alors que la perspective suppose un œil absolument immobile, un seul œil, et absolument pas le mouvement de deux yeux qui balayerait le champ. Et il faut savoir, il faut se rappeler que cette invention d'un système aussi arbitraire que la perspective monofocale, centrée monofocale, pour l'appeler par son terme technique, eh bien, il y a d'autres hypothèses contemporaines hein, que celle-là. Et c'est celle-là qui va l'emporter. Pourquoi ? La question est toujours, mais pourquoi celle-là l'emporte et pas les autres ? Il y avait au moins deux autres systèmes perspectives parfaitement efficaces à l'époque. Il y avait le système, alors qui a été celui pratiqué en particulier par Lorenzo Ghiberti. Lorenzo Ghiberti est également un Florentin, contemporain d'Alberti, etc., de Filippo Lippi, de Frangelico. C'est lui qui a fait les portes du baptistère, la fameuse porte du paradis de baptistère de Florence. Et Ghiberti, en perspective, il développe, lui, un système, on va dire, bifocal, centralisé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un point de fuite, il y a deux points de fuite, correspondant chacun aux deux yeux. C'est tout aussi arbitraire. Hein. Mais il avait des raisons précises en expliquer pourquoi préférer ce système-là à celui que proposait son collègue Alberti. Puis il y en a un autre système encore tout à fait excellent. Deux autres. Il y a le bifocal latéralisé, c'est-à-dire on suppose un point de fuite à l'extrême gauche parce que le regard se porte vers l'extrême gauche, et puis un autre point de fuite à l'extrême droite parce que le regard se porte vers l'extrême droite. Et entre les deux, on organise les lignes de fuite, mais les foyers de perspective sont à l'extrême droite et à l'extrême gauche. Bifocal latéralisé, ça c'est Paolo Uccello. Et on a encore un autre système, et celui-là, c'est alors il est, on va dire entre guillemets français, parce que ça n'a pas grand sens à l'époque, mais celui de Fouquet. Fouquet, lui, met au point une perspective tournante, c'est-à-dire une perspective convexe. C'est-à-dire que l'espace et les pavements, les plafonds, viennent vers le spectateur vers le milieu et repartent vers le fond sur le côté. Ils viennent du fond, ils viennent vers le milieu, ils repartent vers le fond. Alors ça, c'est très intelligent. Très intelligent, parce que, par exemple, pour représenter le parcours d'un cortège dans une ville, le sentiment de mouvement est beaucoup plus fort si on a l'impression que ça vient vers nous et que ça repart. Hein, en même temps qu'on balaye la surface de gauche à droite, c'est loin à gauche, c'est proche au milieu, c'est loin à droite. Donc il y a un mouvement. C'est très intelligent. Fouquet était un homme d'intelligence supérieure. Et quel drôle d'invention à dire en même temps, parce que Fouquet ne savait absolument pas que le fond de l'œil est concave, et que donc nous avons effectivement une vision courbe. Il ne savait pas du tout. Oui. Bon, par contre, c'est un historien qui s'appelle Schwartz qui a fait cette hypothèse, je crois, très convaincante. Ce système perspective circulaire convexe vient du fait qu'à l'époque, pour peindre, on avait dans les ateliers de peintre très souvent des miroirs. Et ces miroirs dans lesquels on regardait la réalité, parce que le miroir, dans le fond, fait déjà tableau. Et ces miroirs étaient convexes, le miroir plat et postérieur miroir convexe. Et donc, la perspective convexe était proche de l'expérience des miroirs de l'époque. Donc, oui, la richesse, ça pourrait continuer, la complexité est très grande. La richesse des propositions de représentation, on va dire, géométrique ou spatial du monde, et en particulier du monde urbain, de l'architecture, et cette complexité est très grande dans les années 1420-1450. La question intéressante, c'est comment a-t-on inventé la perspective qui finalement l'emportera, et surtout, pourquoi ? Pourquoi l'a-t-elle emporté ? Alors, le comment de cette question, ça c'est très compliqué, parce que celui qui a inventé vraiment le dispositif, c'est un architecte. Hein, c'est Filippo Brunelleschi, l'architecte de la coupole de Florence, qui dans les années, maintenant on date ça 1415-1417, donc très tôt dans le 15e siècle, a proposé un modèle théorique qui est un petit panneau, alors j'en parlerai que d'un, un petit panneau sur lequel était peint le baptistère de Florence, tel qu'il est vu depuis la porte centrale de la cathédrale, c'est-à-dire juste en face, hein, à 20 mètres ou 30 mètres, disons, de baptistère. Et pour démontrer la vérité de sa peinture géométrique, eh bien, il ne fallait pas regarder d'un côté le panneau et en face le baptistère, mais il avait pratiqué un trou à l'intérieur de ce petit panneau, et il fallait regarder à travers le trou, donc tourner le dos, hein, faire que la peinture vous tourne le dos, et par derrière la peinture, regarder à travers le trou, à ce moment, on voyait le vrai baptistère. Puis à ce moment, on mettait un miroir, et on voyait le baptistère peint. On baissait le miroir, on voyait que c'était la même chose. Démonstration que l'architecte est capable de représenter exactement ce qu'est l'architecture. On me dirait, pourquoi se casser la tête? Pourquoi un tel truc? Eh bien, je sais plus qui l'a dit, je crois que c'est Boscovitz. La raison, Miklós Boscovitz, est très simple, c'est que Brunelleschi, est très simple et très intéressante, c'est que Brunelleschi voulait substituer au modello, c'est-à-dire le modello en bois des artisans architectes, hein. C'est-à-dire, on commande une architecture à un architecte, et il fait un modello. C'est-à-dire une maquette. Mais il veut substituer à ce modello encore très artisanal, hein, il veut substituer la représentation. C'est-à-dire montrer que l'architecture est une question de représentation et que l'architecte est capable de concevoir ce que sera la figure d'architecture. Donc ce qui est très intéressant chez Brunelleschi, c'est le premier architecte, je crois, qui énonce, mais enfin, par sa peinture, énonce aussi clairement le fait que l'architecture est une question de représentation. Ce qui est extrêmement intéressant, hein, parce que on représente l'architecture telle qu'elle sera. Hein, et donc, ben voilà, je crois que c'est une articulation fondamentale. Mais donc, il aurait inventé à ce moment-là quoi? Ben, un dispositif commode, hein, pour éviter le modello. L'interprétation de Boscovitz est juste, elle est quand même insuffisante, parce que à ce moment-là, ça n'aurait pas triomphé, hein, à ce point-là, dans l'histoire de la peinture. Tant plus que ce que fait Brunelleschi, ce n'est pas de la peinture, ce sont les panneaux de démonstration, puisque, par exemple, dans le panneau du baptistère, toujours le même, il n'avait pas peint le ciel. Il avait peint à la place du ciel et mis une plaque d'argent qui reflétait le ciel réel. Donc on voyait les nuages passer, c'est ce que nous dit son biographe Manetti. Donc ce n'est pas de la peinture, c'est autre chose, c'est un objet de démonstration. Bien, donc comment se fait-il que ce système-là ait pu devenir, hein, la perspective monofocale avec le petit trou centralisé, ait pu devenir le système par excellence de représentation pour des siècles, hein, c'est quand même pour des siècles. La réponse est forcément hasardeuse, parce que on peut pas prétendre avoir résolu des questions aussi vastes simplement. Je dirais simplement, c'est que ce que propose Brunelleschi et ce que va peindre Masaccio, parce que Masaccio travaille avec Brunelleschi, hein, l'architecture de la Trinité à Santa Maria Novella, la fresque de Masaccio, on se demande, hein, il est probable qu'elle ait été dessinée par Brunelleschi. Et il travaillait la main dans la main. Bon, Brunelleschi, Masaccio et Donatello, hein, le sculpteur. Bon. Et donc, en architecture, peinture et sculpture, un moment extraordinaire, qui travaille dans la même direction. La première perspective réalisée a été une perspective sculptée. Hein. C'est la base du Saint-Georges, de Donatello, où il y a une architecture en perspective monofocale, etc. Donc, c'est d'abord passé par la sculpture, avant de venir à la peinture. Alors, pourquoi est-ce que ça a triomphé? Là, il y a des raisons complexes. À la fois, le rôle de Léon Battista Alberti et de son livre « Des pictures », qui légitime la construction perspective, il y a, et qui a un certain prestige dans le monde de la culture, pas forcément auprès des artistes. Ensuite, il y a les commanditaires, et en particulier comme l'ancien, comme de Médicis, hein, qui à ce moment règne à Florence, enfin, qui rentre à Florence, je crois, en 1434, un an avant qu'Albertine écrive son De Pictura, et qui va choisir une peinture non pas gothique internationale, c'est-à-dire luxueuse, princière, mais pour des raisons parfaitement idéologiques, une peinture toscane, entre guillemets, c'est-à-dire économique, sobre, rigoureuse, et donc la perspective s'applique à ça, parce qu'elle appelle l'architecture rigoureuse, sobre, etc. Bon. Et puis, la troisième raison, qui est peut-être plus profonde, c'est le sens fondamental de l'opération intellectuelle qui est à la base de la perspective. Hein. Et c'est celle-là, je crois, qui est peut-être la plus fascinante. La perspective n'est pas une forme symbolique, au sens où l'entendait Erwin Panofsky dans son texte fondateur de 1925, la perspective comme forme symbolique, mais il est sûr que la perspective est une opération intellectuelle fondamentale. Et c'est celle-là qui va demeurer valable pour la position qu'elle donne au sujet, à l'homme dans le monde, pendant des siècles.
Vous écoutez Histoire de peinture, une traversée de l'histoire de l'art par le spécialiste de la Renaissance italienne, Daniel Arras. Retrouvez les 25 épisodes de cette série sur franceculture.fr et l'application Radio France.
finalement, La Joconde est un de mes tableaux préférés. Il a fallu du temps. Il a fallu beaucoup de temps. Il a fallu plus longtemps qu'il en a fallu à Léonard de Vinci pour la peindre. Il a quand même mis 5 ans à la peindre, au moins. Moi, il m'a fallu près de 20 ans pour vraiment aimer La Joconde. Oui, l'aimer, pas seulement l'admirer. Hein. L'aimer vraiment, je trouve que c'est effectivement un des plus grands tableaux du monde. Même si c'est pas nécessairement un des plus émouvants, quoique, franchement, des tableaux qui ont eu autant de commentaires enthousiastes jusqu'à la folie, hein, de la part des gens qui aimaient ce tableau, montrent que c'est un tableau qui, effectivement, touche ses spectateurs, les a touchés. Alors, moi, j'étais comme un spectateur normal du XXe siècle, la deuxième moitié du XXe siècle, on va dire. C'est-à-dire, on avait tellement vu La Joconde, on la connaissait tellement. Puis Duchamp l'avait réglé son compte, que La Joconde est devenue plus une raison de plaisanterie qu'autre chose. Parce qu'une fois que Duchamp l'avait reproduite en écrivant juste en dessous, comme vous le savez, L.H.O.O.Q. Donc, L-H-O-Q, on ne peut plus prendre au sérieux La Joconde, ni les gens qui la prennent au sérieux. Donc, il m'a fallu remonter ce handicap du Champien par rapport à La Joconde, non pas pour retrouver le regard de Léonard de Vinci sur La Joconde ou du contemporain sur La Joconde, mais simplement pour essayer de comprendre comment se fait-il qu'un tableau peint dans une circonstance tout à fait particulière, il y a bientôt 500 ans, puisqu'il était peint entre 1503 et 1508, comment se fait-il qu'un tableau puisse avoir, à 450 ans de distance ou 500 ans, encore un tel effet. Qu'est-ce qui se passe, hein? C'est-à-dire que c'est pas seulement le délire de Walter Pater ou de Théophile Gauthier, même si ça compte, hein, que ce soit eux qui réagissent de manière assez folle, mais même le grand Kenneth Clark, le grand historien Léonard de Vinci, très sérieux, un des meilleurs historiens de l'art du milieu du XXe siècle, qui, à un certain moment, écrit un article, non pas de jeunesse, mais un article d'éducatisme, mais un article de pleine maturité de l'historien, dit qu'elle a l'air d'une déesse sous-marine. On croit une déesse sous-marine. Or, cette femme est assise dans une loggia en hauteur devant un paysage très très lointain et il la voit comme une déesse sous-marine. Bon, qu'est-ce qui se passe dans le tableau pour que des gens sérieux, des responsables de musées, de grands savoirs, puissent dire des choses pareilles, okay. Ce tableau avait finalement quelque chose. Bon, et alors, moi, ça m'intéressait à moitié, puisque ce n'était pas ma tasse de thé, si j'ose dire, La Joconde. Simplement, à partir du moment où je devais écrire un livre sur l'art de Vinci, je ne pouvais pas évacuer La Joconde comme a le droit de le faire tout spectateur normalement constitué. Je devais essayer de comprendre les enjeux pour Léonard de Vinci de La Joconde. Et là, le travail, je dois dire, a été très fructueux, parce que je me suis demandé, mais comment fonctionne ce tableau? D'abord, comment est-il fait? Alors, je vais le décrire juste en deux minutes, et vous verrez que il y a beaucoup de choses qu'on ne voit pas dans le tableau, qui pourtant sont là. Hein, si on a la reproduction à côté de soi, ou si on va au musée, on le verra mieux d'ailleurs dans la reproduction qu'au musée, mais on va voir, par exemple, que, effectivement, La Joconde est assise dans une loggia. Hein, qu'est-ce que ça veut dire dans une loggia? Ça veut dire qu'il y a des colonnes de part et d'autre. Hein. De part et d'autre de La Joconde, à droite et à gauche, au bord du tableau, Léonard de Vinci a pris la peine de peindre deux colonnes avec la base de la colonne et puis le muret qui joint les deux colonnes. Donc elle est dans une loggia, tournant le dos au paysage, et un paysage très très lointain. Bien. Ensuite, elle est assise. Mais où et sur quoi est-elle assise? Elle est assise sur ou dans un fauteuil. Comment le sais-je? Je le sais uniquement parce que le bras gauche de la figure est appuyé parallèlement au plan de l'image, sur un accoudoir. Mais cet accoudoir est la seule trace du fauteuil. Il n'a pas de dossier, par exemple. Bon, il aurait dû peindre un dossier, il n'y a pas de dossier au fauteuil. Donc, étrange. Ensuite, le paysage à l'arrière-plan. Le paysage à l'arrière-plan est étrange, effectivement, puisque c'est un paysage qui est fait uniquement de rochers, de terre et d'eau. Hein, il n'y a pas une construction humaine, il n'y a pas un arbre. Il y a seulement, de manière d'ailleurs, c'est ça qui m'a posé le plus de problèmes pour l'interprétation, il y a seulement dans ce paysage pré-humain, hein, dans le fond, hein, puisqu'il y a les rochers, la terre et l'eau, hein, mais il n'y a pas une trace de présence humaine, sauf un pont. Un pont qui engendre ce qui donc est une rivière. Hein, on va pas dire, mais donc, alors comment se fait-il que dans ce paysage des origines, il y a déjà un pont alors que toute présence humaine a disparu. Alors le tableau a commencé, j'ai commencé, disons, plutôt à me rendre compte que le tableau, ce tableau-là, recélait une méditation de Léonard particulièrement dense. Alors, je ne vais pas m'en étonner, puisque Léonard a dit la peinture est cosa mentale, c'est une chose mentale, et que par ailleurs, il a reçu la commande en 1503, il avait besoin d'argent, on le sait à ce moment-là, il n'a pas encore de grande commande de la ville de Florence. Ensuite, quelques mois après, il reçoit la grande commande pour les fresques du palais de la Seigneurie, et du même coup, il ne livrera jamais le tableau à son commanditaire, Messer Giocondo, et il le gardera pour lui toute sa vie. C'est un portrait qu'il a achevé pour lui. Donc voilà, c'est un cas aussi assez rare d'un portrait commandé et normalement on donne le portrait au commanditaire. Bon. Et bien là non, ou alors on ne l'achève pas. Et bien Léonard l'achève, il l'achève pour lui-même. Et on a la preuve, je vais passer sur les détails des éléments historiques, que c'est très lentement qu'est venue l'idée du paysage de l'arrière-plan, ce paysage en quelque sorte préhistorique ou avant toute histoire humaine. Et donc la question c'était de comprendre, mais quel rapport y a-t-il entre cette figure assise si singulièrement dans ce fauteuil sans dossier, et ce paysage lointain et préhumain. Y a-t-il simplement opposition entre la beauté et le charme de la Joconde et l'arrière-plan préhumain, chaotique, ou il y a évidemment opposition, mais ça ne suffit pas, il y a forcément relation entre les deux. Et à ce moment-là, j'ai commencé à essayer de mieux voir comment d'abord était peinte la figure. La figure, si vous la regardez bien, elle a donc le bras parallèle au plan de l'image, appuyé sur l'accoudoir. À la fois, elle est proche de nous, et toute proche, puisqu'on ne voit pas, il n'y a pas d'espace entre ce bras et une zone plus basse qui mettrait une distance. En fait, la Joconde est passée devant le parapet qui, traditionnellement, à l'époque, séparait la figure peinte du spectateur. Vous savez, c'est ces portraits d'origine flamande où le personnage est visible, mais la base du tableau est faite par un petit parapet, et le personnage est derrière le parapet, éventuellement, sa main passe par-dessus le parapet. Bon, ça, c'est une technique flamande 15e siècle. Léonard, un petit trait de génie, il rapproche la Joconde, enfin, la figure de nous, en faisant que le parapet est derrière. Hein, il est derrière elle, il est passé devant, elle est dans notre espace. Effectivement, on ne sait pas où s'arrête, en fait, le bas du tableau. Mais là, c'est quand même, ce bras qui est tout proche, il fait une barrière aussi, puisqu'il est parallèle au plan, donc il bloque la pénétration. Ensuite, regardez le buste, il est de trois quarts. Hein, donc, elle se tourne légèrement vers nous, puisque le buste n'est pas de profil, mais de trois quarts. Le visage est presque de face, donc le visage tourne par rapport au buste, et les yeux sont perpendiculaires au plan, et nous regardent directement. Où que vous soyez dans la salle, la Joconde vous regarde. Hein, parce qu'elle a le regard perpendiculaire au plan, et donc, il vous suit. Enfin, il donne l'impression de vous suivre. Donc, depuis le bas du tableau, qui fait barrière, qui est intime et qui fait barrière grâce au bras, jusqu'aux yeux, il y a un mouvement de torsion interne de la figure, vivant, qui fait qu'au bout du compte, elle vous fixe. Bon, et que donc, on est sous ce regard. Et ça, je crois que c'est un des éléments de force aussi, de fascination de la Joconde, c'est qu'on est sous son regard, un peu comme on est sous le regard de la Vénus d'Urbain de Titien, qui, où qu'on soit dans la salle, la Vénus d'Urbain, c'est la femme nue couchée, qui est quand même le premier grand nu de la matière occidentale, je crois que c'est l'archétype du nu occidental, eh bien, c'est pas un hasard, c'est cet archétype, on est sous son regard, où qu'on soit. Donc, il y a cette espèce de, premièrement, cette torsion interne de la figure, et puis, ce sourire, le fameux sourire. Ben, ce qu'il y a d'étrange, c'est que, c'est Léonard qui a inventé l'idée de faire un portrait avec un sourire. Il n'y a pas de portrait souriant avant la Joconde. Bien sûr, maintenant, le sourire de la Joconde est archi connu, que ça, le sourire. Oui, mais il n'y a pas de sourire dans la peinture, dans un portrait, avant Léonard de Vinci, sauf un cas, Anténo de Messine, l'homme qui rit, qui est, je crois, conservé à Cefalù, qui est conservé en Sicile, et où Antonello, dont Léonard connaissait très bien les œuvres, puisqu'Antonello était venu à Milan, et que Léonard a vécu à Milan quelques années après, eh bien Antonello a représenté un homme qui rit. Bon, mais, alors, bravo, il, déjà, Antonello est un très grand peintre, mais son homme qui rit, en fait, il a un rictus, c'est raté, c'est une grimace. Et justement, Léonard dit, ah, on veut qu'un sourire, eh bien, je peins un sourire. Bien, alors effectivement, on va dire, mais pourquoi il peint un sourire? Pourquoi ce choix? Alors là, l'histoire aide. C'est-à-dire que Léonard, vous savez, a peint un certain nombre de portraits, des portraits à Milan, le portrait de Isabelle d'Este, le dessin qui est au Louvre, et deux portraits florentins. Le premier de tous ces portraits, qui est Ginevra dei Benci, qui est aujourd'hui conservé à Washington, et l'autre, la Joconde, Mona Lisa. Ce sont les deux seuls portraits florentins peints par Léonard. Il se trouve que ce sont les deux seuls portraits où le personnage nous regarde. Hein, tous les autres, le regard fuit, il est oblique par rapport au plan, on ne peut jamais croiser le regard du personnage pour des raisons précises. Là, au contraire, ces deux femmes nous regardent. Et Ginevra dei Benci, donc le tout premier, Léonard le peint vers 1480-81, Ginevra dei Benci, eh bien, portrait extraordinaire, plus dur, plus aride, elle est triste. C'est un portrait triste. Elle a une moue qui descend, elle est triste. Si on étudie les conditions du tableau, on comprend pourquoi elle est triste. Elle est triste parce que son amant n'est pas là. Bon, il y a des raisons très précises, et le portrait était destiné à l'amant. Comme ça, l'amant pouvait voir que sa maîtresse était triste quand il n'était pas là. La Joconde, au contraire, elle sourit parce que, eh bien pourquoi ? Parce que son mari, hein, Francesco del Giocondo, a commandé son portrait au plus grand peintre du temps, Léonard de Vinci. Et pourquoi le mari a-t-il commandé son portrait ? Parce qu'elle a donné deux beaux enfants, et en particulier deux héritiers mâles, qu'ils ont dû changer à cause de ça de maison dans Florence. On sait tout ça. La Joconde, son mystère n'est pas dans ce qu'on invente autour, il est dans le tableau lui-même. Et le mari a dû changer de maison, acheter un autre palais. Il a agrandi sa maison et il offre à sa femme son portrait par maître Léonard. Bon, elle ne l'aura jamais puisque Léonard l'emportera avec lui. Mais donc c'est un tableau de bonheur. C'est un tableau de bonheur où une jeune femme, elle a à ce moment-là je crois 22 ans, 23 ans, qui a déjà donné deux enfants mâles et qui ne sont pas morts à la naissance hein, à son mari, est dans le fond honorée par l'amour de son mari à travers ce portrait. Ça c'est la raison on va dire anecdotique, historique, mais quand même intéressante parce que tout ce qu'on a élaboré autour du sourire de la Joconde ne tient pas hein, devant l'analyse historique. Mais c'est pas ça qui fait que le sourire est fascinant. Je crois que la raison est beaucoup plus profonde. Et là, il m'a fallu du temps pour le percevoir, pour percevoir ce que moi j'en percevais, hein, soyons quand même plus modestes, c'est que ce sourire, en fait, c'est ce qui lie profondément la figure au paysage de l'arrière-plan. J'ai déjà évoqué ce paysage chaotique de rochers, terre, ou un paysage pré-humain, etc. Eh bien, le paysage, si vous le regardez bien, vous verrez qu'il est incohérent. C'est-à-dire que dans la partie droite du point de vue du spectateur, vous avez les montagnes très hautes, et vous avez tout en haut de la montagne un lac plat, hein, comme un miroir, qui donne une ligne d'horizon très très élevée. Et dans la partie gauche, pour le spectateur, de l'autre côté de la figure, au contraire, le paysage est beaucoup plus bas. Et il n'y a pas moyen de concevoir le passage hein, entre la partie droite très élevée et la partie gauche. Il y a un hiatus. Bien, ce hiatus, en fait, il est recouvert, caché, transformé par la figure elle-même et par le sourire de la Joconde. C'est-à-dire que c'est du côté du paysage le plus haut, sur la gauche, que sourit la Joconde. La bouche se relève très légèrement du côté où le paysage est le plus haut. Et donc, la transition impossible entre les deux parties du paysage, elle se fait dans la figure par le sourire de la figure. On dirait, bon, mais et alors ? Et alors ? Ben, je crois qu'à ce moment-là, il faut avoir lu les textes de Léonard, se rappeler qu'il était un grand admirateur d'Ovide, des métamorphoses d'Ovide, et que pour Léonard, comme pour Ovide, comme c'est un thème classique et courant, la beauté est éphémère. La beauté est éphémère, il y a les fameuses phrases d'Hélène chez Ovide sur la beauté, aujourd'hui je suis belle mais que serai-je dans quelques temps, thème archi courant, et que seulement c'est ce thème-là que traite Léonard, mais avec une densité, comment dire, je dirais, cosmologique assez extraordinaire, parce que la Joconde, c'est la grâce. C'est pas seulement la beauté, c'est la grâce, et c'est la grâce d'un sourire. Mais un sourire, c'est éphémère, ça ne dure qu'un instant. Et c'est pas un éclat de rire, c'est un sourire éphémère. Et ce sourire, c'est ce sourire de la grâce qui fait l'union du chaos, du paysage qui est derrière. C'est-à-dire que du chaos, on passe à la grâce, et de la grâce, on repassera au chaos. Hein, et c'est donc une méditation sur, je dirais, une double temporalité, et nous sommes au cœur du problème du portrait, hein, c'est pour ça que c'est le portrait de tous les portraits, c'est que le portrait est inévitablement une méditation sur le temps, et le temps qui passe, parce que je ne suis plus celui que j'étais, hein, c'est Montaigne qui le dit, hein, j'ai plusieurs portraits de moi, combien je suis différent aujourd'hui d'Astor, c'est ce que dit Montaigne dans les essais, et bien là, c'est au cœur du tableau que se trouve une méditation sur le temps, puisque le sourire, c'est le temps éphémère, de la grâce, hein, de la beauté qui passe, mais cette grâce éphémère, elle est ce qui surgit du chaos et d'un temps immémorial. On passe du temps immémorial du chaos au temps fugitif et présent de la grâce et du sourire, mais on reviendra à ce temps sans fin du chaos et de l'absence de forme. Bon, je trouve que alors le pont, hein, ben il faut quand même encore le pont qui reste quand même, ce pont qui reste là, et je ne comprenais pas ce que venait faire ce pont, donc j'étais embêté, jusqu'au moment où, j'ai lu Carlo Pedretti, qui est le grand spécialiste de Léonard de Vinci, c'est Carlo Pedretti est capable d'écrire comme Léonard de Vinci, hein, de la main gauche et à l'envers, hein. Bon, c'est un homme admirable, il a passé toute sa vie avec Léonard de Vinci. Carlo Pedretti, évoquant le pont, dit une chose très simple, sans penser au problème auquel que moi je me posais, que fait l'aspont, il dit aussi lui que fait l'aspont, mais il dit, seulement le pont c'est un symbole du temps qui passe. Puisque s'il y a un pont, il y a une rivière, et que la rivière est le symbole banal par excellence du temps qui passe. Donc bien sûr, le pont est un indice donné au spectateur, enfin à Francesco del Giocondo, si jamais il a vu le tableau, que l'étrangeté du rapport entre ce paysage chaotique et cette grâce souriante de Mona Lisa, eh bien c'est le temps qui passe. Le thème du tableau, c'est le temps. Et c'est aussi pour ça que la figure tourne sur elle-même, parce qu'un mouvement se fait dans le temps, etc., etc. Et la Nice, vous voyez, peut repartir à ce moment-là. Le tableau est fascinant, parce que sa densité et sa sobriété font qu'il n'arrête pas de renvoyer la réflexion et le regard au regard, etc. Cela dit, et j'en dis pas plus sur la Joconde, je ne pense pas que Monsieur del Giocondo, Francesco del Giocondo, aurait aimé le tableau s'il l'avait vu. Je pense même qu'il n'aurait pas accepté le tableau. Je pense que le tableau ne l'aurait pas plu. Et ça, là aussi, le fait de faire de l'histoire permet tout d'un coup d'avoir un regard un peu plus neuf sur les choses. Je pense que François Giocondo n'aurait pas accepté le tableau fini pour une bonne et simple raison. C'est qu'à l'époque, c'est un tableau scandaleux. C'est un portrait. Aujourd'hui, c'est le chef-d'œuvre des chefs-d'œuvre. Mais à l'époque, en 1503, 1505, c'est un tableau inadmissible. Pourquoi? Parce que voilà, un bon bourgeois florentin, c'est pas n'importe qui commande au plus grand peintre du moment le portrait de sa femme sur le nez des enfants. Et il lui présente comme portrait une jeune femme qui sourit, ce qui n'est pas correct. Elle est toute proche de nous, là, comme ça. Elle nous sourit, elle s'est épilée. Elle s'est épilée les sourcils et les cheveux. Or, on sait très bien qu'à l'époque, c'était être une femme de mauvaise vie que de s'épiler les sourcils et les cheveux. Et puis ensuite, il plante cette femme ravissante, qu'il a embellie d'ailleurs, semble-t-il, par rapport au modèle original. Il la plante devant un paysage préhumain, affreux. Affreux, terrible. Les gens disent, c'est un paysage terrible. Il est assez terrifiant, ce paysage. Or, comment voulez-vous qu'un mari souhaite que sa femme charmante, aimante, etc., qui avait deux enfants, comment voulez-vous qu'il souhaite la voir devant ce genre de paysage et non pas devant des prairies, des arbres, des petits oiseaux, ce qu'on trouve dans les fonds de portraits de Raphaël contemporain. Et il n'a pas pu comprendre. Et moi, je pense que c'est pour Francesco del Giocondo, ou pour ce genre de spectateur, que Léonard de Vinci a peint le pont. Pour expliquer qu'il ne faisait pas n'importe quoi, mais qu'il y avait effectivement une méditation profonde sur le temps. Mais je crois que Francesco Giocondo aurait refusé le tableau s'il l'avait vu. C'est un tableau trop innovateur. C'est un tableau qui, à l'époque, était un tel bouleversement des pratiques du portrait qu'il n'aurait pas pu, il ne pouvait pas être compris immédiatement. D'ailleurs, on voit bien dans les répliques qui en sont faites, Raphaël a admiré la Joconde, mais quand il fait la Dame à la Licorne, il la normalise. La Dame à la Licorne est un portrait tout à fait normal et très beau du début de la Renaissance. La Joconde est à part. Ce qui m'a aussi beaucoup frappé quand je travaillais sur la Joconde, c'est que je travaillais en même temps sur tout Léonard de Vinci, et donc aussi sur les cartes géographiques qu'il réalisait à la même époque. Et un soir, une sorte d'illumination, alors peut-être que c'est une forme de folie, mais regardant ces cartes, j'ai perçu que le paysage de Joconde, à l'arrière-plan, avec son lac très élevé, et puis son val aquatique et marécageux dans la partie gauche, était pratiquement la mise en verticale, c'est-à-dire la prise en vue cavalière, d'une carte de la Toscane que Léonard de Vinci réalise aussi en 1503-1504, et où un des problèmes que se pose Léonard dans cette carte, c'est comment est-ce qu'à une certaine époque, le lac Trasimène a-t-il pu, jadis dans un temps immémorial, expliquer les marécages du Val d'Arno, le Val d'Arno qui est au sud d'Arezzo, qui est en Toscane. Et on voit sur la carte de Léonard de Vinci qu'il a dessiné une chose qui n'existe pas dans la réalité, et qui est un cours d'eau qui va du lac Trasimène au Val d'Arno. Bon, eh bien, ce cours d'eau n'existe pas. Ce qui m'a frappé, c'est de voir que la construction de la Joconde s'accordait pleinement à une réflexion cartographique et géologique de Léonard de Vinci, si bien que le paysage qui est derrière la Joconde, c'est la Toscane. C'est pas n'importe quel paysage, c'est la Toscane immémoriale, avant que l'humanité n'y crée la grâce de la Toscane, car la Toscane est très belle, et cette grâce, c'est la Joconde. Et ce cours d'eau qui rejoint le Trasimène au Val d'Arno, eh bien, c'est le sourire de la Joconde. C'est-à-dire que, et on pourrait continuer, parce que c'est vrai qu'elle a l'air dans une grotte, la Joconde, c'est vrai. Bon, mais on a un très beau texte de Léonard sur la grotte, comme il se penche pour voir ce qu'il y a dans la grotte, et il est attiré à la fois, il a peur. Bon, cette attirance et cette peur, pour Léonard de Vinci, par rapport au corps féminin, elle est bien connue. Léonard de Vinci est le premier artiste qui dessinait un sexe féminin comme une grotte. On peut continuer indéfiniment. C'est la Joconde condense, je crois, une méditation sur le portrait et le temps qui est fondamentale pour l'art du portrait occidental. Et c'est en même temps certainement les tableaux les plus personnels de Léonard parce qu'il a peint pour lui le portrait de la femme fertile, l'épouse de Francesco del Giocondo.
Vous écoutez Histoire de peinture, une traversée de l'histoire de l'art par le spécialiste de la Renaissance italienne, Daniel Arras. Retrouvez les 25 épisodes de cette série sur franceculture.fr et l'application Radio France.
Tableau préféré, il n'y a pas vraiment un tableau préféré. Il y en a bien sûr, je pourrais qui me viennent à l'esprit, mais pas un. Ils seront en général classiques. Je dirais, il y aurait la Madone Sixtine de Raphaël, par exemple, est un de mes tableaux préférés. Mais je pourrais dire aussi, curieusement, la Joconde. Hein, c'est bizarre, mais je pourrais dire aussi bien, je pourrais aller du côté du 18e siècle. Je trouve que le Verrou de Fragonard est un tableau tout à fait extraordinaire et fascinant, où, en descendant encore dans le temps, l'origine du monde, de Courbet, quel beau tableau. Et puis un des rares tableaux qui m'est vraiment touché, c'est une esquisse de la danse de Matisse. Donc, un tableau préféré, je n'en ai pas, je n'aime pas vraiment. D'abord, ça ne sera pas forcément un tableau, ça peut être une fresque. Ça peut être un polyptyque, un retable entier dans une église. Disons qu'il y a des peintures qui touchent ou qui me touchent plus que d'autres, qui m'ont touché plus que d'autres. Et je sais qu'il y en a qui ne m'ont pas encore touché, mais qui un jour ou l'autre vont me toucher. Donc la question pour moi, plus que mon tableau préféré, je vous dirai après quel est mon tableau préféré, évidemment, s'il faut en choisir un, si je veux en porter un seul dans une île déserte, lequel tableau j'emporterai avec moi. Mais je dirais la question c'est moins peut-être quel est le tableau préféré ou mes tableaux préférés que mais qu'est-ce qui me touche dans un tableau ? Comment se fait-il, ou dans une fresque, ou dans un lieu de peinture ? Parce que par exemple, l'idée de tableau suppose déjà que cette peinture est constituée comme une unité qui est accrochée sur un mur, qu'elle a son cadre ou qu'elle n'a pas de cadre, puisqu'aujourd'hui on aime bien accrocher les tableaux sans cadre, ou parfois les montrer sans cadre, mais il n'y a rien de plus émouvant pour moi que de me trouver dans un lieu entièrement couvert de peinture, d'être enveloppé de peinture. Et là je pense par exemple à la chambre des époux qui a été peinte en 1460, je crois 69-74, pendant 5 ans par Mantegna à la cour du prince de Mantoue. Et quand on entre dans cette pièce et qu'on a la chance, comme je l'ai eu, parce que maintenant c'est plus possible, on n'a plus le temps de rester une demi-heure dans une salle, il faut en un quart d'heure, on doit partir, il y a trop de monde qui veulent venir voir, mais pouvoir passer comme ça une demi-heure ou trois quarts d'heure ou une heure, j'ai passé des heures dans cette salle, au bout d'un moment, la sensation d'être, comme j'ai dit tout à l'heure, enveloppé dans la peinture et d'être pénétré par cette peinture parce qu'elle m'enveloppe, il y a des émotions qui sont extraordinaires. La chambre des époux de Mantegna en est un de ces exemples. Un autre exemple, je dois dire, qui me contient de bouleverser, où je ne vais plus parce qu'on ne peut plus voir les peintures comme on les voyait il y a encore quelques années seulement, c'est la chapelle de Piero della Francesca à Arezzo avec l'histoire de la croix, où j'ai passé vraiment des journées à regarder, prendre des notes, regarder, revenir le lendemain pour voir ce que je n'avais pas vu, ou essayer de voir ce que je n'avais pas vu. Et c'est vrai que, comme le disent les Goncourt à propos d'un tableau de Chardin, à un moment, la peinture se lève. Elle se lève et à ce moment-là, elle me prend, elle vous prend. Et là, il y a une véritable émotion. Alors, de quel type est cette émotion ? Ça, c'est difficile à dire. Ça, c'est très difficile à dire parce que, justement, la peinture, je ne sais plus si c'est Stendhal qui disait ça, mais il disait ça en tout cas, je crois, de Raphaël, qui est un peintre que j'adore, évidemment. C'est que le malheur de Raphaël, mais je pense aussi de la peinture parfois, c'est qu'elle passe par la tête. Elle passe par la tête. C'est ce que disait Bernin, d'ailleurs aussi de Poussin. Hein, Bernin, le grand baroque Bernin, voyant les tableaux de Poussin à Paris que lui montre Chanteloup, passionné, fasciné par ces tableaux, passant, on ne sait combien de temps, mais certainement plus d'une heure à regarder les tableaux qu'on lui amenait au fur et à mesure. Et après, en particulier un des sacrements qui lui est présenté, s'agenouillant, regardant, s'approchant, mettant ses lunettes, enlevant ses lunettes, tout ça est parfaitement décrit. Et puis se relevant et son commentaire final étant, il signore Poussin, la voilà dit là. Et il se touchait le front en même temps. Bon, c'est à la fois la grandeur de Poussin, et d'une certaine manière aussi peut-être son malheur, parce que la peinture est un art fascinant, mais qui, quand il touche, c'est plus rare. Enfin, pour moi, en tout cas. Et à ce moment-là, ce qui est très étrange, je n'ai toujours pas de réponse. Avant, je n'ai pas de réponse. Je suis en train de la chercher, cette réponse. Qu'est-ce qui fait qu'un tableau, une fresque, un lieu de peinture peut toucher? Pourquoi est-ce que, devant cette esquisse de la danse de Matisse, les larmes me sont venues? C'est ce qui est absurde, parce qu'on n'a pas à pleurer devant une peinture. On pleure à la musique, on pleure à l'opéra. Ça, c'est connu, c'est classique. Mais devant un tableau, en général, ça ne passe pas par là. L'émotion est d'un autre type. Donc, qu'est-ce qui touche dans une peinture? Ça, c'est une question difficile à laquelle je me garderai de répondre trop rapidement. En revanche, qu'est-ce qui fascine dans un tableau? Qu'est-ce qui fascine dans un tableau? Qu'est-ce qui fait que telle œuvre, plutôt que telle autre, fait qu'on s'arrête et qu'on ne peut pas s'en détacher? Ou que l'œuvre, comme disait Roger de Pile à la fin du 7e siècle, l'œuvre vous appelle, qu'on est appelé par l'œuvre. En ce qui me concerne, parce qu'il n'y a bien sûr pas de règle générale, en ce qui me concerne, je dirais que c'est le sentiment que là, vraiment, dans cette œuvre-là, il y a quelque chose qui pense. Il y a quelque chose qui pense, et qui pense sans mots. Et moi, je suis quelqu'un qui parle, je suis quelqu'un qui écrit, ma pensée, c'est avec les mots, qu'elle se cherche, qu'elle s'exprime, qu'elle se formule, qu'elle se transmet. Et un tableau de peinture, ou une peinture en général, eh bien, elle pense, et elle pense non-verbalement. Et certaines peintures, pour moi, m'attirent, me fixent, m'arrêtent, me parle, comme dit Roger de Pile, elle a quelque chose à me dire, mais il se trouve qu'en fait, elle ne me dit rien. Et cette fascination-là, cette attente, cette mise en position d'attente de quelque chose, qui fait que la peinture, le tableau ou le lieu de peinture, m'arrête et me fixe. Et par exemple, je prends un exemple, le verrou de Fragonard. Le verrou de Fragonard, la première fois où je l'ai vu, c'était à l'exposition Fragonard, quand il avait été acheté pas longtemps auparavant par le Louvre, identifié et finalement acheté par le Louvre. Je connaissais bien sûr le verrou par ses reproductions, ses gravures, etc. Et là, j'ai été arrêté, j'ai eu un choc. Il y a quelque chose qui m'appelait. Et je crois qu'après coup, il m'a fallu un temps pour comprendre ce qui m'appelait. C'était le fait que dans ce tableau, qui est un petit tableau, c'est pas un grand tableau, eh bien, la moitié du tableau, la moitié gauche du tableau, est occupée, comme l'a dit un grand spécialiste, mais je crois qu'il s'est trompé, ou alors il a eu entièrement raison, mais sans le savoir, est occupée par rien. Et ça m'a arrêté. Que fait ce peintre qui me raconte dans le feu une anecdote? Un jeune homme qui enlace une jeune fille pour la mettre sur le lit ensuite, et puis cet ensuite, en fait, il est déjà là. C'est ce morceau de peinture, la moitié du tableau, fait uniquement de plis, de draps, de froissures, je dirais. Et ça m'a fasciné. Là, j'avais effectivement ce que Delacroix, je crois, a appelé la puissance muette, la silencieuse puissance de la peinture. Et c'est ça qui me fascine et qui fait que certains tableaux me touchent, me fascinent plus que d'autres. Dans le cas de Fragonard, c'était cette silencieuse puissance du pictural, je veux dire, mais qui a un sens, bien sûr, parce qu'après ça, l'historien que je suis ou l'interprète que je suis a besoin de se demander, mais que signifie ce rien, que signifie ces draps plissés? Alors, allez voir le verrou et vous verrez qu'il signifie des choses extrêmement précises et qui sont en fait le commentaire, dans l'explication de ce qui se passe à droite, à la fois le passé et le futur de ce qui se passe à droite. Bon, mais dans d'autres cas, et par exemple, là je prendrai le lieu que la chambre des époux de Mantegna, donc au palais ducal de Mantoue, à la fin du 15e siècle, le lieu est charmant, et d'abord c'est beau, c'est-à-dire que c'est beau, c'est-à-dire cette peinture a une puissance d'harmonie assez exceptionnelle. Mais ensuite, ce qui m'avait fasciné, c'est le fait que c'est une chambre assez petite, c'est une pièce assez petite, grande aux critères d'aujourd'hui, mais petite pour l'époque, et où tout l'art du peintre a consisté à peindre entièrement la voûte, le plafond, qui est un plafond en courbe, et ensuite à développer des trésors de peinture sur deux murs, et sur des autres murs, à peindre des tentures abaissées. Des tentures dont on voit qu'elles sont abaissées parce que derrière on voit du ciel, on voit qu'il y a quelque chose derrière, mais elles sont peintes abaissées. Et nous savons que, en plus, ces tentures peintes étaient recouvertes de tentures réelles. Donc je veux dire qu'à partir du moment où, et là bien sûr l'historien a un avantage, c'est qu'il est un peu au courant de ce qui s'est passé, pas juste la chose comme ça, telle qu'elle se présente à lui, mais justement ce que j'avais lu ne me donnait pas d'explication que satisfaisant, ça aplatissait la poésie de cet art consistant à ne peindre que deux murs sur quatre. Et là je veux dire, à nouveau, j'ai eu envie de passer des heures, et j'ai passé des heures à regarder, à essayer de comprendre ce que cette peinture me disait, nous disait ou avait dit silencieusement. Et je veux dire que j'ai été, je l'espère en tout cas, souvent récompensé par la peinture. J'ai constaté que le mécanisme de l'émotion hein, de la venue de l'émotion. Hein, la venue de l'émotion pouvait se produire de deux façons différentes. Premièrement, le choc, la surprise, l'émotion pure et qui ne se verbalise pas, impossible à verbaliser. Par exemple, ce qui m'a bouleversé dans l'esquisse pour la danse de Matisse, c'était le bleu. Ce bleu-là, hein, c'est pas n'importe quel bleu, mais tout ce que je peux dire, c'était du bleu. Mais ce bleu-là, hein, cette tonalité de bleu inventée par Matisse, m'a bouleversé au point que j'ai eu larmes aux yeux, donc j'ai quitté la salle immédiatement. Je suis pas revenu, parce qu'on ne pleure pas en public devant un tableau, on peut pleurer chez soi, mais pas en public devant un tableau. Et c'est après, en réfléchissant à la qualité de bleu, que je me suis dit, en fait, dans ce bleu, il y a du rouge qui est caché, et c'est ce rouge qui, depuis le bleu, m'appelle. Bon. Mais c'est mon sentiment. Peut-être que Matisse n'a pas mis de rouge dans son bleu. Je pense qu'il y avait du rouge dans son bleu. En tout cas, moi, j'ai vu ce bleu avec du rouge. Mais chacun voit les couleurs comme il l'entend. Donc, en tout cas, c'est le premier type d'émotion touchée par une surprise, un choc, qui donc, enfin, en ce qui me concerne, est un choc visuel coloriste. Hein, c'est le coloris, hein, qui me touche et m'appelle. Mais ça, c'est un premier type d'émotion. Le deuxième type d'émotion, c'est quand, avec le temps, avec la durée, avec le fait de revenir, peu à peu, je dirais, comment dire, les couches de sens, hein, le feuilletage, hein, cette accumulation de sens, de réflexion, de méditation du peintre, eh bien, peu à peu, j'ai l'impression que, bon, ben, la peinture soulève une partie, hein, puis elle soulève une autre partie, et puis au fur et à mesure, une intimité. Mais c'est la même chose, au bout de compte, c'est l'intimité. D'un côté, il y avait l'intimité du bleu rouge de Matisse, hein, c'est ce rouge-là dans le bleu, et puis de l'autre côté, c'est l'intimité, alors effectivement, je dirais, du peintre dans son œuvre, et aussi de toute son époque dans son œuvre. Parce que à la Chambre des Époux de Mantegna, bien, c'est vrai que c'est pas seulement Mantegna hein, qui est un peintre génial, qui était un peintre génial et qui est un peintre génial, mais c'est aussi le commanditaire, le prince Ludovic Gonzague, la femme, et alors à ce moment, l'histoire devient passionnante parce que, comme disait Warburg, hein, au bout du compte, on entend ces voix. On finit par les entendre, les voix des bourgeois florentins qui se peignent dans leur chapelle. Parce que là, l'histoire donne une familiarité artificielle. Il ne s'agit pas de prétendre qu'on a l'état d'esprit d'un bourgeois du XVe siècle. Mais on finit par rejoindre un horizon jamais entièrement atteignable, mais par se rapprocher d'une intimité de l'œuvre telle qu'elle a été demandée, réalisée, et regarder ou vécu, qui est fascinant et qui est très émouvant. C'est très émouvant. Je veux dire que quand à Arezzo j'ai vu, tout d'un coup j'ai vu. Ça faisait des heures j'étais là, tout d'un coup j'ai vu quelque chose que bah, des gens ont peut-être vu avant moi, mais personne n'avait noté, hein, qui était la signature théorique et individuelle de Piero La Francesca de tout cet immense ensemble de fresques par un minuscule détail qui était en bas à gauche la dernière fresque et qui présentait une tête coupée. Regardant le spectateur d'un regard aveugle, puisque la tête est coupée donc morte, là, j'ai vraiment eu le sentiment d'être au plus près de ce qu'avait pu penser, imaginer Piero La Francesca. Alors, il y a peut-être une forme de folie dans cette idée qu'on puisse réatteindre ce qu'a rêvé ou imaginé Piero La Francesca devant sa fresque. Et il faut faire attention à bien faire la différence entre un fou et un historien. Je dirais, les historiens qui sont fous, et c'est pas plus mal d'ailleurs, hein, et les fous qui peuvent être historiens aussi. Mais simplement, en l'occurrence, il se trouve que j'ai pu voir ce détail qui était là depuis 500 ans parce que tout le reste de ce que j'avais regardé, commencé à comprendre, tout d'un coup me faisait remarquer ce détail qui était là pour, comme ça, pas forcément pour qu'on le voit. En plus, c'est vraiment un détail minuscule, en bas à gauche, à la dernière fraise, donc il n'y a pas de raison d'y faire une attention particulière. Le principal est au milieu, évidemment, pas sur les côtés. Bien, donc, voilà, je dirais, il y a ce double type d'émotion, hein, l'émotion choc devant, pour moi, en général, le coloris, hein, c'est-à-dire la profondeur ou le brillant coloriste, je dis bien coloriste, non pas coloré, de l'œuvre, ou non pas à l'inverse, mais complémentairement, l'émotion de la densité de pensée qui est confiée à la peinture. Et c'est ce que, je veux dire, me gêne dans la peinture, c'est vrai, c'est à travers les couleurs, matières, formes, etc., cette pensée. Il y a quelque chose qui pense, et je n'ai que des mots, hein, pour essayer d'en rendre compte, en sachant pertinemment que ces mots ne rendent pas compte de l'émotion qu'il y a, parce que vraiment l'émotion n'est pas verbale. Donc c'est infini, c'est onodénaïde, hein, je pourrais toujours remplir des mots, je n'atteindrai jamais la qualité spécifique de l'émotion d'un tableau de peinture. Donc même quand le tableau ou la fresque a été comprise, y revenir, hein, ben c'est affronter à nouveau ce silence de la peinture. Alors, quant au tableau préféré, j'en aurai deux. Il y a la Madone Sixtine de Raphaël, qui maintenant est à Dresde, et la Joconde de Léonard de Vinci. La Joconde, c'est difficile, il faudrait vraiment du temps pour en parler de la Joconde, donc je parlerai que la Madone Sixtine pour l'instant. La Madone Sixtine, vous savez, c'est un tableau qui a été peint par Raphaël, c'est un tableau d'hôtel, peint par Raphaël, je crois, en 1516, peut-être un peu avant, et qui représente simplement la Vierge dans l'Enfant, sur des nuages, avec à sa gauche, à elle, Sainte-Barbe, et à sa droite, Saint-Sixte, et puis en bas du tableau, en haut du tableau, vous avez deux rideaux verts entrouverts, et puis en bas du tableau, vous avez deux petits angelots, qui regarde d'un air un peu mélancolique ce qui se passe au-dessus d'eux. Ce tableau a été un des tableaux les plus admirés de l'histoire de la peinture à partir du moment où il est passé à Dresde. Avant, il était dans une église à Plaisance. On savait qu'il était beau, mais on n'en parlait pas trop. Il était connu, on allait le voir, mais c'est pas un grand tableau. Dès lors qu'il est à Dresde, il devient un des tableaux mythes de l'histoire de la peinture. Et moi-même, bon, la Madone Sixtine, quand j'ai étudié Raphaël, était un tableau mythe. Et puis, je suis allé à Dresde. J'ai vu la Madone Sixtine. Et j'ai été extrêmement déçu, parce que le musée avait été réaccroché, on était en train de restaurer le musée, etc. Il y avait une plaque de verre devant le tableau, et donc ce que je voyais, j'étais assis, je voyais les néons de la salle qui se reflétaient dans le verre, et je devinais, enfin je bouge pour deviner la peinture. Bon, j'étais extrêmement déçu, mais comme j'étais venu jusqu'à Dresde pour voir Madone de Dresde, la Madone Sixtine, je ne voulais pas repartir déçu. Donc je suis resté, je suis resté à peu près une heure comme ça à me déplacer, et à un moment le tableau s'est levé. Effectivement, tableau s'est levé, d'un coup j'ai vu Madone Sixtine, et j'ai vu, je dois dire, un des tableaux les plus profonds intellectuellement en histoire de la peinture européenne, et si on aime Raphaël, si on connaît Raphaël, et si on aime Raphaël, un des plus émouvants s'il concerne l'art de Raphaël. Alors, pourquoi un des plus profonds? Bien parce que je crois, et c'est ce que Benjamin n'a pas voulu voir, ou a vu, dont il n'a pas voulu parler, c'est que la Madone Sixtine présente très exactement le moment de la révélation du Dieu vivant. C'est-à-dire que c'est un tableau qui montre le Dieu brisant le voile. Brisant le voile, le Dieu s'exposant. Et cette profondeur du Dieu s'exposant, hein, enfant, eh bien, ce qui rend le tableau pour moi bouleversant, ce sont en particulier deux petits anges qui sont en bas, qui eux-mêmes, dans le fond, qu'est-ce qu'ils font là? On n'en sait rien. On a imaginé des histoires plus extravagantes, hein, sur ces deux petits anges. On imaginait que c'est des portraits des enfants que Raphaël aurait avec la Fornarina. On imaginait tout ce qu'on voulait sur ces petits anges. En fait, je suis persuadé, et pour des raisons iconographiques, sérieuses, historiques, théologiques, qu'ils sont la figuration chrétienne des chérubins gardant le voile du temple dans la région juive. C'est-à-dire que ce à quoi ils assistent eux-mêmes, c'est au fait qu'ils ne sont plus les gardiens du secret et du Dieu invisible, le Dieu s'est rendu visible. Et cette espèce de, à la fois d'extraordinaire tragédie, parce que le Dieu se rendant visible, ça veut dire qu'il va mourir, le Dieu. Eh bien, il est confié, hein, ce secret ou ce mystère tragique, il est confié à des visages d'enfants. Eh bien, je trouve que c'est d'une puissance extraordinaire. Et la Madone Sixtine, effectivement, j'ai plus besoin d'aller la revoir. Une fois qu'elle s'était levée, eh bien, ça y est, mon émotion, je la garde.
C'était Histoire de peinture par Daniel Arras. Réalisation de l'émission de 2003, Jean-Claude Loiseau, Pierre Caumont, Claire Levasseur. Rediffusion, Françoise Le Floch. Conseillère au programme, Camille Renard. Vous pouvez retrouver cette traversée érudite et passionnée de l'histoire de la peinture en 25 épisodes de 20 minutes sur franceculture.fr et l'application Radio France.